Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission, vous le savez, consacrée à la peine capitale aux États-Unis, où, rappelons-le, 34 États sur 50 appliquent toujours la peine de mort. On va beaucoup en parler avec mon invité Arnaud Gaillard. Près de moi, c'est Virginie qui nous a rejoint et qui vous restez là jusqu'à 15h.
Avec vous à vos côtés. Bonjour Jacques et bonjour. Aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs. Avant de commencer l'émission, le 3210 et la page de l'émission sur RTL.fr sont prêts à recevoir toutes les questions, les témoignages et vos commentaires que vous voulez apporter à l'heure du crime sur le sujet d'aujourd'hui.
Voilà, et c'est pas un sujet pour ou contre la peine de mort. Bonjour Arnaud Gaillard.
Bonjour.
On est bien d'accord, c'était pas le but de votre enquête non plus, bien qu'on connaisse vos opinions de citoyens à ce propos-là. Vous faites partie de ceux qui souhaiteraient que la peine de mort soit abolie dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pour ce qui concerne la France, on commémore les 30 années d'abolition de la peine de mort, octobre 1981. Un mot d'abord, on va parler évidemment de ce que je disais il y a un petit instant, juste avant le flash, c'est-à-dire cette enquête que vous avez menée aux États-Unis, qui débouche sur un film documentaire et un livre. Mais d'abord, vous-même, Arnaud Gaillard, comment avez-vous décidé de consacrer autant de temps à ce sujet, justement ?
En réalité, en fait, on m'a demandé en tant que sociologue de diriger une mission d'enquête sur la peine de mort aux États-Unis. Comme j'avais fait préalablement au Burundi et que je trouvais que l'utilité de mon travail était assez peu exploitée, j'ai voulu décliner ce même travail que j'allais effectuer à nouveau aux États-Unis sous la forme d'un livre, puisque mon éditeur Max Milo voulait me republier, et également sous la forme d'un film, et puisque Arnaud Domergue dans Dolphy Productions souhaitait également produire ce film dont je lui avais parlé. Donc ça permettait de parler à plusieurs types de publics différents et de montrer au-delà du concept pénal ce que c'est vraiment la peine de mort. C'est-à-dire, ça peut être une sentence, mais c'est une sentence qui touche la vie des gens, ça touche l'équilibre de la société, ça touche la philosophie, ça touche la souffrance, ça touche les espoirs, les désillusions et aussi beaucoup les fantasmes d'une société. Donc c'est un peu tout ça que je voulais exprimer, à la fois dans un film avec Florent Vassaux et à la fois dans un livre.
Alors justement, le livre qui paraît aux éditions Max Milo, 999, en anglais on dirait 999, alors on connaît 911 qui est le numéro, c'est le 17 quoi, le police secours des États-Unis, 911, ça veut dire quoi 999 au cœur des couloirs de la mort, ça on comprend.
999, en fait, apparemment, ces trois chiffres-là, j'ai pas l'explication exacte, mais ces trois chiffres-là sont les trois premiers chiffres des matricules des condamnés à mort dans certains États, dont le Texas. Et je n'ai pas le sens de ça. Certains me disent, est-ce que c'est l'inversement de 666, le chiffre du diable ? Moi, je pense qu'il y a une vision assez pragmatique parce qu'on est aux États-Unis et que tout est toujours motivé soit par la finance, soit par le pragmatisme. Ouais. Je pense que, d'un point de vue du listing informatique, dès l'instant où on met 999, ça veut dire que ces individus sont forcément en bas de liste si on fait un classement arithmétique. Et ce sont des gens qui, symboliquement, sont déjà exclus un peu de la liste des vivants et de ceux qu'on va peut-être se faire sortir un jour.
Alors, je disais tout à l'heure que pour cette enquête, vous avez, rencontré tous les acteurs du système judiciaire américain, les familles de victimes qui, aux États-Unis, peuvent assister à l'exécution de l'assassin de leurs proches ou des assassins de leurs proches, des familles donc également de condamnés à mort. Vous êtes allé dans les couloirs de la mort. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure d'un de ces condamnés à mort qui a passé de très nombreuses années dans un couloir de la mort avant que son innocence ne soit reconnue, McCarthy, dont on parlera tout à l'heure. Des avocats, bien sûr, des philosophes, des sociologues. En fait, c'est une enquête sur les États-Unis, sur l'environnement culturel des États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez simplement, là, parce que moi, je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi la peine de mort est toujours appliquée dans ces États. Qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis, la peine de mort ? Pour quel crime, par exemple, est-ce qu'on risque la peine de mort ?
C'est vrai que ce travail, c'est une manière, en fait, de parler des États-Unis. Et c'est une sorte de road movie, d'ailleurs. Les États-Unis, c'est composé de 50 États. Il n'y a plus que 34 États qui sont. Enfin, il y a 34 États qui toujours ont la peine de mort. Et donc, 16 qui ont aboli. C'est donc donc une sorte de traversée des États-Unis, de la société américaine, de toutes ces grandes géographies, de toutes ces grandes étendues, de toutes ces populations d'origines diverses qui peuplent la société américaine. Mais c'est un regard sur les États-Unis à travers ce prisme extrêmement violent qu'est la justice américaine, qui est effectivement quelque chose d'assez terrible, d'assez inéquitable, d'assez corrompu aussi, on peut le dire. Donc, je pense que...
Parce que tous les États ont un système, les États fédérés ont un système judiciaire différent de l'État voisin. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Je sais que c'est une colle. Pour quel crime risque-t-on la peine de mort ? Ce n'est pas la même chose dans chaque État.
Non, alors les listes, effectivement, d'un État à l'autre sont assez variées. Mais il n'empêche que la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême à l'échelle fédérale, parce qu'il y a des Cours suprêmes aussi dans chacun des États, la Cour suprême à l'échelle fédérale, a globalement résumé la question en disant que la peine de mort désormais ne devrait être appliquée qu'aux crimes les plus haineux. Ouais. Alors il y a plusieurs définitions jurisprudentielles de ce qu'est un crime haineux. Évidemment, généralement, la population, enfin disons que les districts attorneys, les procureurs là-bas vont essayer de requérir la peine de mort lorsque le crime a été particulièrement médiatisé, lorsqu'il s'agit d'un crime à l'encontre d'un policier par exemple, lorsqu'il s'agit d'enfants, lorsqu'il s'agit d'une sorte de récidive, lorsqu'il s'agit d'une femme et de plusieurs enfants, lorsqu'il y a véritablement une sorte de côté un peu sensationnel. Ça veut dire aussi que les procureurs, puisqu'ils se font élire aux États-Unis, les juges également, ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir créer toute une sorte de narration qui va satisfaire les médias, qui va satisfaire les publics, il y avoir un véritable discours, il va y avoir du bruit autour de l'affaire criminelle et auquel va répondre du bruit autour de l'affaire judiciaire.
Ouais. Alors, en vous lisant, et on en reparlera tout à l'heure, on sait pas ça qu'il y a un arbitraire total de ce côté-là sur, je veux dire, les gens qui sont véritablement condamnés à la peine de mort et ceux qui auraient pu l'être. Ça mérite réflexion, on y viendra tout à l'heure. Il y a encore une autre petite chose que je voulais ajouter. Il y a un côté Far West dans votre movie, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de vos interlocuteurs qui vous disent tranquillement, oui, bien sûr, il faut conserver la peine de mort. On sait qu'il y a des innocents qui risquent d'être exécutés, mais enfin, c'est plus important que tout de garder ce système-là. Et c'est la loi du talion, quoi. Tu as tué, on te tue.
C'est la loi du talion, oui, qui justifie. Les Américains ne réfléchissent pas à la peine de mort et ne réfléchissent pas, ne critiquent pas leurs propres institutions. Donc pour eux, si on leur pose la question, on était les premiers à leur poser la question, alors oui, ils vont dire la loi du talion, ils vont répondre comme ça. Après, c'est vrai aussi que la société, comme vous le dites, c'est un peu le Far West, c'est une société assez récente, et c'est une société dans laquelle on ne pardonne pas beaucoup, l'indulgence n'a pas vraiment sa place, et il paraît logique que d'éliminer, sachant que chacun croit à l'effet dissuasif de la peine de mort, il paraît logique d'éliminer celui qui a fauté. Et les Américains ont quand même tendance à considérer que celui qui a été criminel, celui que l'on va condamner à mort, c'est forcément un serial killer. Et toute la narration cinématographique sur les serial killers alimente un peu cette pensée. Donc pour eux, c'est quelqu'un qui ne se remettra jamais. On ne change pas, on ne comprend pas son crime. Un individu qui a été mauvais est définitivement mauvais, ce qui est assez manichéen, c'est vrai.
Voilà. Qui tuera-t-il à nouveau si on ne le tue pas ? C'est une phrase d'ailleurs sortie d'un témoignage, je crois, que vous avez recueilli. On en parle dans un instant. Après cette pause, bon, on va prendre des cas concrets d'ailleurs avec des extraits des archives sonores de la rédaction d'RTL et on parlera tout à l'heure de l'un de ces feuilletons dont on a pris l'habitude maintenant, une personne qui passe des dizaines d'années dans les couloirs de la mort et puis quelques minutes ou quelques heures avant l'exécution, la peine est suspendue, ce qui ne veut pas dire que cette personne ne sera jamais exécutée. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et on retrouve l'invité de l'heure du crime, Arnaud Gaillard qui est l'auteur d'un livre qui paraît aux éditions Maximilo, 999, donc on a compris, c'est le début du matricule des condamnés à mort, au cœur des couloirs de la mort, un aspect très important évidemment de l'enquête qu'il a réalisée aux États-Unis et qui débouche également sur le film Onk, qui est diffusé dans les salles depuis hier soir. Un mot, on reparlera du film tout à l'heure plus complètement, mais Onk, c'est le bruit que fait un klaxon, c'est ça ?
Onk, ça veut dire klaxonner. C'est
ça veut dire klaxonner.
C'est même pas le mot klaxon. Il y a deux mots aux États-Unis en anglais pour ça. Et oui, c'est un peu le cri de désespoir des gens qui ne peuvent rien dire de plus contre le système et contre le système implacable. Ouais. Leur seul cri de désespoir, ça va être de s'exprimer avec un klaxon aux États-Unis. Voilà. Et notamment, c'est un des personnages du film qui fait ça régulièrement.
C'est la mère d'un condamné à mort qui, à chaque fois qu'elle passe devant la prison, il y a peut-être 300-400 mètres à parcourir et elle appuie sur son klaxon pendant ces 300-400
voilà,
mètres.
Voilà, pour manifester contre cette justice implacable. Et c'est comme une communication avec à travers les murs, avec son fils.
Alors, on va entendre tout de suite un premier extrait d'une archive d'RTL. Nous sommes le 10 mars 2000. 6 heures avant son exécution, des traces ADN vont disculper un monsieur qui a été condamné à mort, qui s'appelle Lloyd Lefever. S'il était accusé du meurtre d'une vieille dame pour laquelle il a été condamné à la peine capitale 15 ans avant, donc en 2000, ça fait 15 ans qu'il est dans le couloir de la mort. Et Jérôme Godefroy, que le correspondant d'RTL aux États-Unis à cette époque, revient, on va l'entendre, sur les circonstances de ce rebondissement de dernière minute qui suspend l'exécution du condamné.
Le dossier de cette affaire va pouvoir être rouvert à la lumière de nouvelles révélations fournies par une récente analyse scientifique. Lloyd Lefever et un complice avaient été impliqués dans le meurtre il y a 15 ans d'une vieille dame de 84 ans. La victime, avant de mourir, avait été enlevée, dévalisée et violée. Il y avait du sang sur le blue jeans de Lloyd Lefever, mais le tout nouveau test ADN démontre qu'il ne s'agit pas du sang de la victime. Ce sang était pourtant l'argument principal de l'accusation. Un nouveau doute sérieux qui donne raison à tous ceux qui dénoncent les erreurs judiciaires dans les couloirs de la mort aux États-Unis.
Alors, il faut ajouter que cet homme, Lloyd Lefever, va être finalement exécuté 10 mois plus tard, le 30 janvier 2001, et cela malgré les preuves d'innocence par l'ADN dont parlait à l'instant Jérôme Godefroy.
La Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême fédérale, a déclaré dans un arrêt il y a quelques années que dès l'instant où la procédure avait été respectée, donc la loi impose d'avoir une défense de qualité, etc., des recours en appel possibles, dès l'instant où tout ce processus a été respecté, alors la question n'est plus de savoir si la personne est coupable ou innocente, la loi doit s'appliquer, donc la sentence, si c'est une sentence de mort, bien qu'elle soit irréversible, doit s'appliquer.
Même si on a trouvé des preuves de l'innocence. Donc, ce n'est pas la garantie d'un nouveau procès, d'une révision du procès. En fait.
La justice américaine, elle n'est pas trop à ce point à la recherche de la vérité. L'idée, c'est plutôt le mécanisme, c'est plutôt que l'accusation et la défense, d'autre part, construisent une forme de narration suffisamment complète pour emporter la conviction d'un juré.
Oui.
Voilà, c'est ça, c'est uniquement ça. Ouais. La vérité est une autre histoire.
Oui, mais alors, parlons d'un homme qui est, qu'on peut voir dans Onk, donc dans votre documentaire au cinéma depuis hier. Cet homme s'appelle Curtis McCarthy. Il a passé combien de temps dans le couloir de la mort ?
Il a passé 19 ans dans le couloir de la mort et puis il a passé ensuite 3 ans en prison, le temps que les administrations américaines acceptent de l'exonérer, pas de l'innocenter, de l'exonérer.
Ça veut dire quoi, exonérer ? C'est quoi la différence ?
C'est un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il n'est pas coupable de l'acte pour lequel il avait été condamné à mort, mais pour autant, ils refusent de l'innocenter, c'est-à-dire de laver sa réputation et son
casier judiciaire. Et
il n'est toujours donc pas réhabilité. Il n'est même pas indemnisé pour ses 22 années d'enfermement qu'il a subi.
4 ans de prison et 18 ans de prison dans les couloirs.
Exactement. Ouais.
Alors, lui, il avait été accusé du meurtre d'une jeune fille de 18 ans, retrouvée assassinée après avoir été violée. Ça se passait à Oklahoma City. Les soupçons ont pesé sur lui très vite parce qu'il était simplement un proche de cette jeune femme. Il a toujours nié, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, la justice l'exonère là ?
Il était ce que l'on appelle, il y a le film de Jean-Xavier de Lestrade qui parle de ça, qui s'appelle Un coupable idéal. Il était un coupable idéal, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il était assez délinquant, il était impertinent vis-à-vis de l'institution, c'était un drogué, c'était un type dans cette petite ville calme d'Oklahoma, qui est quand même un état assez perdu au cœur des États-Unis. Mmh. C'était un trublion, voilà. Ouais, et donc, ce type était une cible idéale pour la police. La police voulant absolument résoudre ce crime qui avait été fortement médiatisé, c'était une femme et un enfant. Oui. Donc il était le coupable idéal. Et c'est souvent comme ça que ça se passe.
Mais l'experte de la police scientifique qui avait réalisé l'étude qu'il avait qui avait permis de l'inculper de meurtre, on a prouvé par la suite qu'elle avait falsifié ses scellés, elle avait falsifié un document officiel du FBI en vue de prouver sa culpabilité, et cela en accord avec le procureur. C'est quand même énorme.
Il y a très fréquemment, aux États-Unis, c'est ça qui rend la chose extrêmement dangereuse pour n'importe quel citoyen, il y a une collusion entre le procureur, le juge et la police. Et ils travaillent fréquemment main dans la main tous, et ils ont tous intérêt au bon déroulement de l'enquête d'une part, et puis de la condamnation d'autre part, pour, aux yeux de la population américaine, satisfaire le besoin de vengeance, l'envie d'avoir trouvé un coupable, et de se dire maintenant... Nous sommes forts, nous vous avons protégé, on a trouvé un coupable, peu importe si c'est le cas ou pas. Et ce qui est assez ironique dans le cas de Curtis McCarthy, c'est que c'est aussi le FBI qui, 19 ans après, enquêtant sur une autre histoire, s'est rendu compte de cette falsification.
Et a viré cette experte. Donc voilà.
Mais a viré cette experte.
Oui, voilà. Mais enfin, elle n'a pas été condamnée à grand-chose. Hein.
Elle a été condamnée à rien du tout.
Rien du tout,
non.
Même.
Elle a même été mutée. Oui, elle a été mutée à un endroit où elle n'allait pas faire trop de bruit, en fait.
Alors, on va faire une nouvelle pause. On parlera de la manière dont on peut fabriquer un coupable idéal aux États-Unis, parce que vous donnez des informations dans votre livre qui ne sont pas connues du grand public ici, notamment sur la constitution des jurys. On va en parler dans un petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors Arnaud Gaillard, je reviens à votre enquête et aux informations que vous donnez sur les différences incroyables entre notre système judiciaire, par exemple, et celui des États-Unis. Alors on a compris que finalement, il y avait parmi les 34 États qui continuent à avoir la peine de mort, des approches très différentes. Il y a des États où on condamne une personne une fois, on exécute un condamné une fois tous les 2 ou 3 ans, ou très peu, et d'autres où chaque année... On fait le plein, si j'ose dire. Et c'est
Texas,
5 exécutions, ou 6 ou 7, hein, je crois. Je n'ai pas les chiffres
le
en tête.
Le Texas exécute à peu près 2 personnes par mois en moyenne.
Ouais. Et depuis que l'ADN existe, et depuis qu'une une association existe qui s'appelle
Innocence Project.
Je le dis à la française, voilà, Innocence Project, le projet Innocence, sont des gens qui ont voulu prouver que dans les couloirs de la mort, il y avait des innocents et que peut-être on pouvait le prouver. Et depuis que ce projet existe, 273 personnes ont été sorties des couloirs de la mort et, stupéfaction, 25% de ces 273 innocents avaient avoué.
Oui, c'est impressionnant parce que ce qui veut dire, ce qui en dit long, tout d'un coup, ça lève le voile sur les techniques policières, sur les techniques de chantage pour obtenir des aveux, des coupables, des présumés coupables, mais parfois aussi, on a vu le cas avec Troy Davis, des témoins qui vont venir étayer la culpabilité. Donc ça paraît incroyable, c'est-à-dire que là, c'est même plus la critique de la justice américaine, c'est la critique du fonctionnement policier, en fait, puisque c'est au stade de l'enquête que se passent ces corruptions.
Autre surprise que j'ai eue en regardant votre film Onk ou en lisant le livre Au cœur des couloirs de la mort, là, chez Max Milo, la composition des jurys de l'équivalent de la cour d'assises américaine.
Alors là, effectivement, c'est encore un autre point de perversion du système. C'est que les sentences, il y a 2 sentences. Il y a une sentence de culpabilité et ensuite la sentence de la peine qu'on va attribuer.
Ce sont les magistrats qui donnent la peine, le quantum de la peine, je crois, et le jury populaire qui dit coupable ou non coupable.
Et alors, les jurés sont recrutés généralement parmi 200 personnes que l'on fait venir, et les juges et les procureurs et aussi les avocats de la défense, mais choisissent parmi ces 200 personnes les 12 personnes qui vont juger. Et il doit, parmi ces 12 personnes, chacun des personnes doit être favorable à la peine de mort. Un abolitionniste ne peut pas faire partie d'un juré peine de mort aux États-Unis.
Donc déjà, ils doivent signer un papier en disant au cas où le procès déboucherait sur la possibilité de condamner cette personne à mort, le voterez-vous, quoi, en fait.
Exactement, exactement. Donc, il faut être en faveur de la peine de mort pour faire partie d'un jury aux États-Unis. Ouais. Et alors, après, la perversion est beaucoup plus complète que ça. C'est que si, par exemple, il s'agit du meurtre d'une petite fille qu'il faut juger, une petite fille blanche, par exemple, ils ne vont recruter que des mères de famille blanches. Donc, ils vont forcément être beaucoup plus identifiés à la famille des victimes et donc, ils vont être beaucoup plus favorables à voter pour la peine de mort. Donc, le choix de juré et de tous les jurés se fait en fonction de la volonté d'obtenir la sentence de mort lorsque le juge ou le procureur ont décidé ce résultat.
Voilà, alors si on ajoute ces informations-là à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que quand on fait des recours à la Cour suprême des États-Unis ou à d'autres organismes judiciaires qui sont censés pouvoir interrompre, par exemple, une exécution, on ne juge jamais sur le fond, quoi. On essaye de voir s'il y a eu dysfonctionnement ou pas. S'il n'y a pas eu dysfonctionnement, et même s'il y a une évidence d'innocence, le processus judiciaire peut aller jusqu'au bout. Alors... On va prendre un exemple, c'est celui de Hank Skinner, un exemple positif pour l'instant. Hank Skinner, c'est un autre feuilleton morbide, parce que vous comparez, ce feuilleton et ses couleurs de la mort à une forme de torture.
Torture, totalement.
De nous en expliquer les raisons tout à l'heure. Le 25 mars dernier, 25 mars de 2010, Hank Skinner, donc, qui se trouve depuis 15 ans dans le couloir de la mort, devait être exécuté. Et il n'a pas été exécuté. C'est un homme qui est marié à une Française, au passage. Quelques minutes avant la mise en œuvre de l'injection létale, puisque c'est comme ça qu'il devait mourir, la Cour suprême des États-Unis décide de suspendre son exécution. Et sur l'antenne d'RTL, on va écouter les explications de Philippe Antoine.
Pour l'instant, ce n'est qu'un sursis. La Cour suprême ne s'est pas exprimée sur le fond. Elle a juste suspendu l'exécution en attendant de décider si elle se penche sur son cas ou si elle fixe une nouvelle date de mise à mort. Cette nuit, Hank Skinner s'apprêtait à recevoir l'injection mortelle. Il était à quelques mètres de la table où se trouvait la seringue. Il a passé la journée à dire adieu à son épouse française lorsqu'il a reçu un coup de téléphone de son avocat lui annonçant la nouvelle. « Je m'étais fait à l'idée de mourir », a-t-il dit après. Ce qu'il réclame, c'est une analyse ADN, notamment de deux couteaux qui ont servi au meurtre. Depuis 10 ans, David Protes, professeur de journalisme à Chicago, se bat pour son innocence. Il a envoyé 8 étudiants au Texas pour trouver des preuves.
Ça fait 10 ans qu'il existe des preuves que l'on pourrait analyser pour comparer les ADN. Il suffit que le gouverneur du Texas le décide. Évidemment, il aurait dû le faire avant de laisser un possible innocent risquer de se faire exécuter.
Pour Skinner, il s'en est donc fallu de 45 minutes cette nuit, 3/4 d'heure, alors que cela fait 15 ans qu'il est condamné à mort.
Alors, je parlais de feuilleton, il faut raconter la suite. D'abord, ce qu'on vient d'entendre là, c'est un épisode parmi d'autres. Ça dure depuis 15 ans. L'exécution a finalement été reportée au 8 novembre dernier, là. C'est-à-dire il y a 2 jours. Et nouveau coup de théâtre, il y a 2 jours. Nouvelle suspension parce que une commission saisie par les avocats a permis d'interrompre le processus 48 heures avant le jour fatal. Donc on se met à la place à la fois de ceux qui pensent que cet homme est innocent, lui-même, c'est insupportable.
Ça fait partie du processus de torture, ouais, vraiment. Il y a une sorte de jeu avec le temps, avec les nerfs, et il y a une indifférence totale de la part de l'administration pénitentiaire ou judiciaire aux États-Unis sur cette douleur. Donc, il joue avec les nerfs sous le prétexte de la loi, des recours, du calendrier des recours. De toute façon, tout dans la peine de mort aux États-Unis est prévu par la loi. Donc, à chaque fois, personne n'a à culpabiliser. C'est la loi qui permet ce fonctionnement et ce processus. Mais effectivement, le cas en plus d'Hank Skinner n'est pas du tout une exception. La plupart des condamnés à mort que j'ai rencontrés ont, à un moment ou à un autre, sont rentrés dans le processus de la pré-exécution. Ça veut dire visite chez un médecin qui vous explique exactement comment on va vous enfoncer une aiguille dans le bras, etc. etc. Ça veut dire être dans une cellule spéciale, avoir parfois le dernier repas, parfois même être jusqu'à être attaché puis libéré. C'est quelque chose d'assez fréquent. Et ça ne choque pas puisque c'est le processus prévu par la loi qui autorise cela.
Ouais. Et évidemment, vous dites, vous parlez de torture et vous dites, mais quelle que soit la culpabilité de quelqu'un, c'est inacceptable, quoi. Ça peut paraître inacceptable. Alors, on va en reparler dans un petit instant, à travers un autre exemple. Alors, celui-ci malheureux pour ceux qui étaient persuadés de l'innocence de Troy Davis. Troy Davis, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. On y revient dans un petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
Troy Davis, un autre cas célèbre aux États-Unis et dans le monde entier. Troy Davis était, il faut en parler au passé, un noir accusé d'avoir tué un policier blanc et qui a passé 20 ans dans les couloirs de la mort. Malgré la mobilisation de très nombreux comités de soutien un peu partout dans le monde qui étaient persuadés de son innocence, le 20 septembre dernier, le comité des grâces avait refusé de suspendre son exécution prévue pour le lendemain, c'est-à-dire pour le 22 septembre et le lendemain, après un nouveau suspense. L'exécution de Troy Davis va être suspendue pendant plusieurs heures à la suite d'un ultime recours de ses avocats devant la Cour suprême des États-Unis. Et puis finalement, on apprend au bout de 3 heures que la décision des juges est négative et Troy Davis est finalement exécuté. Avant de donner la parole à l'un de ceux qui a beaucoup mené le combat à propos de Troy Davis, maître Christian Charrière Bournazel, ancien bâtonnier de Paris, on va écouter cette archive RTL du 22 septembre. Marie Guerrier et Vincent Parisot diffusent le témoignage d'une personne qui a assisté à l'exécution de Troy Davis avant de joindre notre correspondant sur place.
Il a dit qu'il était innocent. Il a dit à la famille McFay qu'il n'était pas celui qui était responsable de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a dit qu'il n'avait pas d'armes. On entendait seulement la climatisation. C'était très, très silencieux, très respectueux, très sobre.
Rémi Sulmont, vous êtes aux États-Unis pour RTL. Cette dernière nuit aura été terriblement longue.
Oui, Troy Davis et ses soutiens ont eu le temps cette nuit de croire au miracle, de croire que la pression internationale allait finalement payer. Car juste après 19h, heure d'Atlanta, à l'heure où Troy Davis aurait dû mourir, la prison a fait savoir qu'elle attendait l'avis des juges de la Cour suprême de Washington, saisie 90 minutes auparavant par les avocats du condamné. Les préparatifs de l'exécution ont donc été stoppés net, ou plutôt suspendus, le temps que les 9 membres de la Cour suprême fédérale, contactés par email ou par téléphone, soient consultés. Ce qui les a fait espérer, c'est le temps qu'ont mis ces juges de la Cour suprême à se prononcer. D'habitude, de tels recours sont rejetés en quelques dizaines de minutes. Cette nuit, il a fallu attendre 3h30, ce qui fait dire aux experts que les juges ont peut-être été pris de doute. Les soutiens de Troy Davis et les abolitionnistes, qui ont perdu là l'un des combats les plus emblématiques, voient aussi dans ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis, dans ces heures tragiques, la démonstration de la cruauté de la peine capitale et la preuve, je cite, que le système de la peine de mort aux États-Unis, déjà en perte de vitesse, ne peut plus fonctionner.
Bonjour maître Charrière Bournazel.
Bonjour cher monsieur Bradel.
Alors merci de prendre quelques instants.
Merci d'avoir fait signe.
Parce que voilà, vous venez d'entendre là, ça date du 22 septembre dernier. Ça représente combien d'années de combat, si j'ose dire, pour vous et
écoutez, c'est 17 ans, c'est un peu moins de 20 ans, mais 17 ans. Ah, pour moi, pour contre la peine de mort, je suis dans le sillage de Robert Badinter qui l'a fait abolir en France en 81. Mais c'est un combat qui, évidemment, ne me quittera jamais, comme beaucoup de mes amis et de mes confrères. Vous savez, le drame, ça se résume en une phrase. Sans faire référence à une spiritualité ou à une philosophie, la justice humaine est relative, elle peut se tromper. Injustice relative, peine relative. Or, la peine de mort est absolue. Et ce qui est terrifiant dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la violence de la décision de justice rendue, il y a eu la violence de la loi et de la décision de justice, fait qu'aujourd'hui, un malheureux est dans les couloirs de la mort et on lui refuse les expertises ADN qu'il demande, qui pourraient prouver qu'il est innocent. Tellement le jugement a plus de force que la vérité. Et ça, c'est une dérive terrifiante. Je dirais même que cette violence de la loi, je pèse mes mots, représente en Amérique une forme de charia. Il y a une charia américaine.
Alors, ça veut dire aussi, maître, si je vous comprends bien, que les choses n'évolueront pas sans un très profond remaniement, une réforme totale de la manière dont on rend la justice aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas illusoire?
Écoutez, c'est probablement moins la façon dont on rend la justice que l'appréciation par les politiques de ce qui peut faire plaisir à la foule. Quand vous constatez que certains États seulement aux États-Unis ont la peine de mort et pas les autres, on se dit, tiens, c'est un résidu, ça changera. En réalité, la Cour suprême elle-même n'invalide pas les lois des États qui pratiquent la peine de mort. Et par conséquent, il y a une sorte de consentement unanime à une violence qui est moralement pour moi insoutenable et qui, sur le problème de la raison, n'a pas de justification. Rappelez-vous qu'on a vu sortir de prison aux États-Unis après 17 ans des hommes qui n'étaient pas condamnés à mort, mais qui étaient convaincus d'être coupables de pédophilie ou de viol, et que la nouvelle science de l'ADN a innocenté.
Alors c'est valable pour cela et pas valable pour les condamnés à mort des couloirs de la mort.
Mais oui, parce qu'il y a une sorte d'intégrisme de la décision de justice aux États-Unis qui fait que le juge ne veut pas remettre en cause la décision rendue. C'est aberrant.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, on avait envie d'entendre votre réaction. Merci beaucoup, c'était Maître Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris, qui s'était beaucoup battu, il l'a rappelé, là, pour le 4 Roy Davis. On va faire une dernière pause dans l'émission, retrouver Arnaud Gaillard pour continuer à parler à la fois de son film « Onk » et de ce livre 999 « Au cœur des couloirs de la mort », un livre qui est paru aux éditions Max Milo.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous allons revenir maintenant plus spécifiquement au film Onk, donc que vous avez co-réalisé. Je vais vous demander de nous redonner le prénom de Vasseau, qui est
Florent
Vasseau, voilà, qui est votre co-réalisateur. Je suis vraiment désolé pour lui. Il avait qu'à être là, hein, finalement. Mais voilà, donc Arnaud Gaillard et Florent Vasseau ont réalisé ensemble ce road movie aux États-Unis. Quel est votre but dans ce film, qu'est-ce que vous voudriez que se disent les spectateurs qui, depuis hier soir, peuvent voir ce film au cinéma?
C'est autant le livre que le film, d'ailleurs, même si les approches sont un peu différentes, c'est de faire comprendre, innocent, coupable, là n'est pas la question en matière de peine de mort, de faire comprendre exactement ce que c'est la peine de mort d'un peu plus près, à quoi ça ressemble quand l'État s'autorise à tuer ses citoyens, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir politique qui se cache derrière, est-ce que c'est véritablement une notion de justice, qu'est-ce que c'est qu'une peine irréversible, qu'est-ce que c'est que la souffrance d'attendre sa mort et de vivre sans aucun horizon. Tout ceci, on doit considérer ces questions-là lorsqu'on se positionne en faveur ou contre la peine de mort. Et en l'occurrence, c'était surtout pour les États-Unis, parce que les Américains, eux, ne regardent pas ce système. Donc, à un moment où ce film va être diffusé aux États-Unis, c'est un peu leur permettre, leur donner de quoi débattre, au moins s'interroger.
Mais vous dites, on n'en parle pas aux États-Unis. Alors, d'abord, les médias n'en parlent pas spécialement.
Les médias parlent de la sentence de mort lorsqu'elle est donnée, mais les arguments en faveur de l'abolition, le mouvement abolitionniste aux États-Unis est récent, il a 20-25 ans maximum, et ils sont encore très très représentatifs, très peu représentatifs en nombre. Et donc le grand public ne critique jamais cette peine, ne sait pas ce qui se passe dans les couloirs de la mort et
parce qu'elle considère que la justice est bien rendue et que les gens qui meurent méritent les condamnés méritent de la peine qui leur a été donnée. Quoi.
Voilà, les gens continuent à penser aux États-Unis, il y a encore des gens qui pensent ça en France d'ailleurs, que la peine de mort est une solution à la criminalité, à la violence, et que c'est dissuasif. Alors, on sait, dès l'instant où on se penche sur cette question, on sait que c'est faux. Ce serait même plutôt l'inverse, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe dans les 16 États américains qui ont aboli la peine de mort? On le sait.
Il y a plutôt moins de criminalité. Il y a plutôt moins de criminalité dans les États où il n'y a pas la peine de mort que dans les États où il y a la peine de mort. Comment voulez-vous montrer aux citoyens qu'il ne faut pas tuer en tuant? Si l'État tue pour montrer qu'il ne faut pas tuer, ça concourt à semer un climat de violence dans la société et dans la tête des citoyens, alors qu'il y a quelque chose quand même en 2011 qui est acquis maintenant, c'est on ne tue pas. On a décidé il y a quelques siècles, on ne se mange plus, l'anthropophagie a disparu. On a décidé aussi qu'on n'allait plus s'acheter, l'esclavage a disparu. On a décidé qu'on n'allait plus se torturer, la torture a disparu. Il va arriver un moment, et c'est le sens de l'histoire, où on va décider à l'échelle universelle qu'on va arrêter de se tuer et surtout pas au nom de la justice.
Alors, on va entendre une dernière archive sortie des archives donc de la rédaction d'RTL à propos de l'exécution d'un homme dont le nom vous est très familier parce qu'il apparaît, son nom apparaît et sa famille, la famille des victimes, c'est-à-dire de l'homme que Ronnie Lee Gardner a tué, pour lequel il a été condamné à mort. Cette famille, vous l'avez interviewé, vous l'avez amené pratiquement aux portes de la prison, sur le parking de la prison, où il allait être exécuté. Ça se passe dans l'État de l'Utah. Et le 18 mars dernier, 2010, dernier donc de l'année 2010, 18 mars, René Lee Gardner est exécuté après avoir épuisé tous les moyens de recours qu'il avait engagés. Il a 49 ans ce jour-là. Et en fait, curiosité aux États-Unis, on se dit, on pense chaise électrique, on pense injection létale. Eh bien, lui, il a choisi de mourir fusillé par un peloton d'exécution. Et sur RTL, on entend les explications à ce propos de Philippe Antoine, notre correspondant aux États-Unis.
La mort par balle faisait partie des choix possibles par ce condamné. Les condamnés pouvaient choisir entre la fusillade ou la mort par injection. C'était vrai jusqu'en 2004, date à laquelle ce choix a été supprimé. Mais dans le cas de Ronnie Lee Gardner, il avait opté, entre guillemets, pour cette mort avant cette interdiction. Les historiens estiment d'ailleurs que ce sont les Mormons, très présents dans l'Utah, qui sont à l'origine des fusillades par peloton d'exécution, car les Mormons croient à la réparation par le sang. Alors ce matin, c'est un peloton de 5 tireurs, des policiers professionnels anonymes, qui s'est présenté. Gardner a été assis et ligoté à une chaise, puis ses bourreaux lui ont recouvert la tête d'une cagoule noire avant de circuler à environ 7 mètres et de viser, armé de fusil calibre 30, le cœur du condamné sur lequel une cible en tissu blanc avait été épinglée sur le cœur précisément, donc pour faciliter le travail des tireurs. Cela donne vraiment l'impression d'un retour au 19e siècle. D'ailleurs, la famille du condamné à mort s'était rassemblée devant la prison d'État de l'Utah pour protester contre à la fois la condamnation elle-même et la méthode, mais rien n'y a fait. Gardner avait épuisé tous les recours. Sa mort par balle a été prononcée à 12h20, heure locale.
Et un peloton d'exécution aux États-Unis, c'est une exécution en chambre, hein,
oui.
En milieu clos, hein, dans une pièce. C'est 5 tireurs, 4 ont des balles, le 5e a une balle à blanc,
oui.
Et tout le monde vise le cœur.
Voilà.
Et ce sont des volontaires, c'est-à-dire qu'il y a, ça c'est aussi une de mes découvertes en regardant le film et en vous lisant, il n'y a pas de bourreau aux États-Unis.
Il n'y a pas de bourreau en fait, effectivement. Là en l'occurrence, pour le peloton d'exécution, ils ont lancé un appel parmi les gens de la police. Il y a eu plus de 200 candidatures de gens qui voulaient tirer, participer à ce crime barbare, ce crime d'État. Et donc 5 tireurs. Et habituellement, normalement, les injections létales sont réalisées par le personnel pénitentiaire qui sont nommés par le directeur et qui certains doivent attacher les bras, d'autres doivent attacher les pieds, d'autres doivent piquer les veines.
Ils n'ont pas le droit de refuser.
Et normalement, ils n'ont pas le droit de refuser. Non, ça fait partie d'une obligation d'État, quelque chose de très professionnel.
C'est pour ça que vous avez tourné dans votre film. Oui, voilà. Vous avez filmé le directeur de la prison félicitant le personnel pour le fait que tout s'est passé comme ça devait se...
Parce qu'à 1h du matin, on arrive juste... Ronnie Lee Gardner est décédé à minuit 17. Et à 1h du matin, il y avait une immense conférence de presse en pleine nuit à Salt Lake City. On a filmé ça, ça fait partie de l'ouverture de Honk. Et là, chacun des intervenants, notamment des journalistes qui avaient eu le droit d'être accrédités pour assister à l'exécution et pour transmettre aux autres journalistes, puisque on est dans une démocratie, le peuple doit savoir comment on tue, qui on tue et à quel moment. Et chacun s'interrogeait simplement sur la question de... Est-ce que c'était violent? Est-ce que c'était pas violent? En fait, on n'a pas vu de sang couler. Alors, c'est pas si violent que ça par rapport à l'injection létale. Non, vraiment, ce dispositif est pas si mal. Comment ça se fait? C'est pas vraiment comme dans les films. Il y avait toute cette sorte d'interrogation et tout le monde oublie qu'en réalité, ils viennent de tuer quelqu'un quand même. Ouais. C'est ça la réalité quand même. Ils viennent de tuer quelqu'un.
Il y a d'autres témoins que vous avez filmés et qui vous parlent de... ils comparent, enfin, il y a une injection létale pour un condamné et qui se souviennent qu'ils ont dû faire piquer leur chien... quelques jours avant. Quoi.
Et que c'est un peu la même chose finalement, que c'est un acte quasiment médical que de faire les injections létales.
Tout dernier mot, parce qu'on a parlé avec Virginie tout à l'heure hors micro, elle avait raison et je m'étais promis de vous poser la question. On a aussi l'image des États-Unis d'un pays extrêmement religieux. Et Virginie, hein, vous disiez,
il n'y a pas de compassion et il n'y a pas de pardon.
La société américaine, elle associe ce que je disais tout à l'heure, la précarité règne, l'indulgence ne règne pas. Et effectivement, beaucoup des religieux, pas tous les religieux, mais beaucoup des religieux, notamment au Sud, basent leur foi sur la question de l'Ancien Testament, de la loi du talion, de cette sévérité maximum autorisée par Dieu. Et il y a une forme d'obscurantisme, comme disait le bâtonnier tout à l'heure, il y a une forme d'obscurantisme. Certains pensent que la loi obéit à la Constitution, qui elle-même est dictée par Dieu. Comment voulez-vous argumenter quoi que ce soit de rationnel après ces arguments irrationnels? C'est difficile.
Et surtout quand ils ajoutent que finalement Jésus-Christ est le condamné à mort le plus célèbre du monde et qu'il fallait que sa condamnation aille jusqu'au bout pour sauver les hommes.
C'est l'idée de la mort qui expie, dont on va se débarrasser, mais on est encore avec ça.
On n'ira pas plus loin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour votre accueil.
Vous direz bonjour à Florent Vasseau. Donc, je rappelle qu'il y a le film dans les salles de cinéma, distribué au cinéma, à voir donc. Honk, et puis 999, Au cœur des couloirs de la mort, à lire. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Merci à tous encore une fois, et dans un petit instant, c'est Flavie Flamand qui va venir nous rejoindre.